C'est mardi, il est 17h30, c'est l'heure de l'aérospatiale, l'émission de CQRL qui est consacrée à 100% aux arts visuels. Vous êtes en ma compagnie, Julie Gagné, en compagnie de Raymond Poirier qui nous fait la mise en onde encore, l'animateur du de l'émission du matin nous fait encore ce plaisir cette semaine. Aujourd'hui, dans l'émission, plusieurs choses, notamment on va faire une entrevue avec le collectif Acapulco pour leur projet Clé en main. Ils sont en train de construire une façade de bungalow en plein Nouveau-Saint-Roch. Ensuite, on va rencontrer François Simard qui va nous parler de son exposition Une pièce qui est présentée à la galerie Le 36. On rencontre aussi José Landry Sirois. Son exposition se termine à la fin de la semaine. Elle va nous parler de ses grands dessins qui sont présentés à la galerie Tizara. Et comme à l'habitude, comme à chaque semaine, on rencontre Éric Dorion. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Je meurs d'impatience de savoir de quoi tu vas nous parler.
Ben, je vais commencer par un scoop, en fait.
Oh!
Je ne ferai plus l'émission. Non, c'est une blague.
Maman de panique.
Non, je vais vous parler j'ai eu une annonce, je peux le faire. Donc, le Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui est un élément phare de la musique et de l'art audio, au niveau mondial, aura lieu encore une fois en 2011, dans le mois de mai. Et puis, cette année, il y avait un volet installation sonore au festival.
Donc, tu étais responsable, commissaire.
Je n'étais pas le responsable.
Ah non.
J'étais invité. Je suis le responsable maintenant.
Ah ben voilà. Félicitations. C'est une main d'applaudissement pour
donc,
Éric Dorion.
Donc, s'il y a des artistes qui écoutent présentement, qui ont des projets, ils peuvent me contacter. Donc voilà. Mais ceci dit, cette semaine, le disque...
Parce qu'on n'est pas rendu au FIMAV encore.
On n'est vraiment pas rendu au FIMAV. Le disque cette semaine, c'est pas nouveau, c'est pas récent, c'est enregistré en 99. Je dois t'avouer que je l'ai écouté probablement 10 000 fois, ce disque-là. C'est fait partie... il est dans la...
Dans le top de ta liste?
Ouais, de ma liste et de ma grosse pile de CD. C'est l'album Poire Z. Poire Z, c'est constitué de Gunther Müller, Voice Crack et Eric M. Je vais vous faire un peu la déclinaison, là. Gunther Müller, c'est un percussionniste qui travaille l'électronique. C'est un bonhomme qui est rendu près de 60 ans, je crois. Il travaille... c'est assez cool de le voir aller, en fait, parce qu'il y a, un drum très très acoustique, mais qui est branché. Donc, il y a des micros de brancher, bien sûr, pour amplifier le drum. Mais tout ça passe dans un ordinateur et puis transforme le processus, transforme les coups. Gunther Müller est accompagné de Voice Crack. Ça, c'était un duo autrichien qui a commencé dans les années 70. Et eux, quand on voit la description de leur instrument là, à Voice Crack, c'est « Cracked Everyday Electronics ». Donc, c'est vraiment... c'est des ils vont prendre des bidules. Moi, j'ai joué avec un des types de Voice Crack, qui est Norbert Mosslang. Et puis, pour te donner une idée, il y avait des petites lumières à LED.
Ouais.
Tu vois, qui flash, ces espèces de lumières qu'on met sur les vélos le soir pour se faire remarquer, là, je sais pas si vous voyez un peu là.
Oui, hein? Des lumières LED, ouais. Comme il y en a de plus en plus.
Exactement. Donc, et ils s'amusaient avec l'intensité de ces lumières-là. Il y en avait une dizaine. Et puis, c'était installé sur une petite console. Et puis, il y avait des cellules de photosynthèse, donc qui captent la lumière et puis qui transformaient
la lumière en son. Oh.
Et puis, ils travaillaient avec ça. Tu vois, fait que c'est un peu la dynamique du duo. Le duo n'existe plus. Les deux artistes ont une carrière solo maintenant, travaillent dans multiples collectifs et ont également un travail en installation très 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 intéressant. Donc ça, c'est les deux Autrichiens. Et puis Eric M, Eric Maton de son vrai nom. Eric M, c'est un Marseillais. On a eu la chance de l'entendre l'année passée à Québec lors de l'événement Influence qui était organisé par Avatar et dont le commissaire était Éric Dorion.
Quelle ne fut pas ma surprise.
Et Eric M, en fait, c'est un type qui joue de la table tournante. et il a une technique au tourne-disque incroyable. C'est un virtuose dans la création à la table tournante en art audio ou en nouvelle musique avec Martin Tétrault, Philippe Jack, Otomo Yoshihide. C'est vraiment c'est une référence. Et donc les pièces qu'on va entendre sur l'album Power Z, cet album là est sur l'étiquette 4/4 Ears, donc 4 F-O-R espace 4 espace Ears. Donc pour les quatre oreilles, c'est l'étiquette en fait de Gunther Müller, et c'est une étiquette suisse, et je crois que tous les albums qu'il y a sur cette étiquette là c'est complètement génial.
C'est une bonne référence à noter.
For four years. Ils ont un bon site web là, mais je pense vraiment, moi j'ai une bonne dizaine de disques de ce label à la maison, et puis c'est tous très très bons. Power Z, on a pu entendre ce projet là il y a quelques années, il y a 7-8 ans, à Victoriaville. Ça avait été un très très beau moment. C'était quelque chose.
Ça fait pas si longtemps quand même qu'ils ont arrêté de faire ce projet-là.
Poire Z, je crois plus que ça va être faisable encore, ce projet-là, mais justement Voice Crack, qui fait partie de Poire Z, eux, ça fait 5 ans qu'ils n'existent plus. Là. Donc, les pièces qu'on va entendre aujourd'hui, du moins des extraits des pièces, là, comme à toutes les semaines, il va y avoir la pièce Elish Herbalist, il va y avoir également Rolic Rope, il va avoir Bash Battery, puis Quilney Quiet. C'est un travail.
Ça doit être assez particulier, là, l'hybride, là, dans ces trois genres-là.
Oui, c'est de la création sonore qui va... En fait, on retrouve vraiment une musicalité dans ce travail-là. On retrouve une recherche de la tension. De la tension, vraiment une espèce de, et on voit avec la rupture, on joue beaucoup aussi avec j'irais dire avec le débris sonore, peut-être le parasitage sonore, mais on sent vraiment une construction qui cherche une musicalité là, non, franchement, c'est super. je souhaite...
Tu ne taris pas d'éloge.
Non, je souhaite ardemment que les auditeurs puissent mettre la main sur ce disque-là. Malheureusement, à Québec, je crois plus que c'est possible de le trouver.
Ouais, des fois, j'imagine des recherches par Internet.
Recherches sur Internet, ouais, je pense qu'on va être capable. Et puis, même, je ne suis pas sûr si 4/4 Years ont des nouvelles sorties en cette étiquette-là. Donc...
C'est incertain. Faites des recherches si vous êtes motivé.
Oui, absolument. Aussi, je vous glisse un petit mot par rapport au 28 octobre. Il y aura un événement à Québec organisé par le collectif et organisme Tartare, qui est en production et en diffusion en nouvelle musique et en art audio.
Nous entendons juste un petit instant, Tartare. C'est un nouvel organisme.
Je vais en revenir la semaine prochaine, mais c'est un nouvel organisme qui a été monté par Martin Michaud et Éric Dorion, moi-même. Et puis, l'idée, c'est de développer un peu plus la scène en art audio et en nouvelle musique à Québec, et puis de combler un peu l'espace vacant, parce qu'il n'y a plus de diffuseurs en tant que tel. On prend, mettons, Avatar, qui est situé dans Méduse, a un travail plus de laboratoire, de recherche, mais ils font ils font pratiquement jamais de spectacle. Et nous en fait, c'est l'idée, c'est de rendre vivant un peu l'art audio et la nouvelle musique, et le présenter au public.
D'être un pont, finalement.
Voilà, puis d'organiser des événements. Donc, il y aura des événements et également des spectacles qui vont être présentés dans les bars là, de façon sporadique. Le 28 octobre va être la première soirée officielle de Tartare. Ça va avoir lieu à la salle multi de Méduse. Et puis, il y aura Martin Tétrault, il y aura Philippe Aubert-Gautier, il y aura le trio Vente de Feu, et je ferai un solo. Mais je vous en reparle la semaine avant le 28 octobre pour bien, bien, bien vous mettre ça dans la tête.
Et d'ici là, on écoute... Poire Z, à CKRL.
Thank you.
On vient d'entendre un extrait de Hellish Herbalist. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, c'est pas très grave. Vous êtes toujours à l'aérospatiale, accompagné de Julie Gagné. Et en ce moment, je ne sais pas si vous vous êtes promené dans le quartier Saint-Roch, mais il y a une drôle de construction qui est en train de se monter. Une façade de bungalow, carrément, une façade de bungalow de banlieue, dans le nouveau Saint-Roch quand même, c'est bien de le mentionner. Eh bien, ce travail-là, c'est une production du collectif Acapulco, que je reçois aujourd'hui, donc Pierre Brassard, Vincent Hince, Marie-Pierre Lebeau, bonjour.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Comment avancent les travaux?
Bien. Bien.
Oui, bien.
Oui. C'est les derniers milles, on a hâte d'avoir fini là. C'est un peu, c'est un sprint fou un peu là. Ça fait 3 semaines, 7 jours sur 7 qu'on est là-dessus. Fait que, mais oui, ça va bien, ça va super bien.
Ça va bien, c'est jeudi le vernissage, donc là on est vraiment dans la fin des travaux. Moi, en fait, j'ai une question, là, parce que quand même, ça détonne assez, là, ce petit bungalow jaune-là dans le quartier Saint-Roch. Pourquoi avoir choisi de construire un bungalow dans le nouveau Saint-Roch? Moi, je sais pas, dans ma tête, c'est vraiment ancré dans le centre-ville, la banlieue, c'est un peu irréconciliable.
C'est peut-être justement pour ça.
OK.
Ben, en fait, à la base, c'est surtout une certaine image, en fait, le projet, pour nous, en tout cas, c'était une... On avait une envie, c'est une espèce de fantasme finalement, on avait envie de construire une, c'est ça, une façade de bungalow, bon, jouer un peu avec les codes, bon, les codes du quotidien, du commun, de ce qui est un peu, ce qui marque l'imaginaire d'un peu tout le monde, puis bon, cette espèce de clash-là, de le transposer dans le centre-ville, puis finalement, ben, en trouvant ce terrain-là qui était vacant, qui est peut-être un des derniers... Peut-être le dernier sur Saint-Joseph.
Oui, probablement.
C'est ça. Puis, ben, ce contraste-là, finalement, avec tous les nouveaux développements qu'il y a eu dans les dernières années, tout ça, ça devenait encore plus intéressant. Ça apportait plus de sens, peut-être. Ouais.
D'autant plus que, justement, comme les nouvelles constructions dans le quartier Saint-Roch ont souvent pour but d'amener comme les gens, justement, des banlieues au centre-ville pour consommer au centre-ville. Vous leur faites peut-être un référent avec leur vie quotidienne, d'une certaine manière. Pour la façade, en fait, vous avez choisi vraiment le modèle de maison qui est le plus conventionnel, là, mais vraiment le plus conventionnel avec, moi j'appelle ça du clabard, là, en bon québécois, du clabard jaune, des fausses colonnes de plastique. Pourquoi avoir choisi un modèle aussi anonyme et édulcoré?
Ouais, ben on est dans la normalité, là, tout à fait. C'est, en fait, ben on travaille depuis ce projet-là depuis un bon bout de temps, puis on a comme étudié un peu la chose. On s'est promené dans les Rona, Kanak-Marquis, compagnie. On a fait des tours dans les quartiers de banlieue pour trouver vraiment quelque chose le plus normal, si on peut dire, que tout le monde se reconnaît un peu là-dedans. Ou...
Quelque chose de consensuel, mais qui... pas vraiment fascinant, finalement,
ouais,
qui est un peu beige.
Puis qui reflète vraiment, en fait, l'offre qui est faite à quelqu'un qui veut se construire une maison, là, tu sais, c'est... Ben, pour s'être promené dans n'importe quel nouveau développement, on voit que tout se ressemble, puis il
n'y
a vraiment pas rien qui sort du lot, vraiment, fait que ça représente un peu ça, puis c'est ça qui fait que ça clash un peu avec l'architecture urbaine.
Oui, j'imagine. En fait, moi, une question que je me pose aussi, parce que je suis allée vous voir cet après-midi, ça, vous le savez, mais je me suis installée devant la façade, et là, j'observais quand même les gens passer. Puis les commentaires étaient assez drôles, des gens qui disent « Ah, c'est une espèce de maison. » Qu'est-ce que les gens... Est-ce que les gens vous parlent? Est-ce qu'ils vous disent quelque chose? Est-ce qu'ils vous abordent?
Bien, constamment, là, les journées, surtout les journées qui fait beau, là, on peut se faire arrêter 20, 30 fois par jour par des gens, souvent les mêmes personnes qui passent à tous les jours, pour nous poser des questions. Puis c'est ça, la première réaction, c'est toujours c'est une maison, c'est une cabane à patates, un magasin. En tout cas, c'est jamais... Les gens pensent jamais que c'est une œuvre d'art, a priori. Ouais. Puis je pense que le fait, justement, que ce soit quelque chose que les gens connaissent puis côtoient tous les jours, ils n'ont pas peur de nous aborder en disant « Ah, c'est sûrement, je sais pas, une agence de voyage qu'on s'est fait demander récemment. » Fait que là, ça ouvre le dialogue, puis là, on leur répond « Ben non, c'est une œuvre d'art. » Puis là, les gens sont comme plus ouverts un peu à dialoguer avec nous.
Ben oui, parce que ça pique leur curiosité. Nécessairement, j'imagine que pendant l'exposition, va y avoir des gens sur place quand même pour faire une sorte de médiation, parce que vous pouvez pas juste laisser ça comme ça, puis voilà, tenez, c'est ça, début de façade.
Ben, c'est ça, je pense, le fait aussi de s'installer dans le quartier, tu sais, ça fait 5 semaines qu'on fait de la médiation, qu'on répond aux questions des gens, puis qu'on leur parle beaucoup, puis là, quand ça va être ouvert, dans le fond, du 7 au 17 octobre, il va y avoir quelqu'un tous les jours sur place pour faire des petites visites, puis répondre aux questions.
Il y a une autre question, je me pose plusieurs questions, bien entendu, là, mais vous avez décidé de faire uniquement une façade, puis vous avez décidé aussi de donner, bon, vous me parliez de ça, là, c'est pas terminé, mais de donner un peu l'impression que le reste de la maison a été arraché. Pourquoi juste garder la façade, puis pourquoi cette sorte de violence-là, finalement, envers, envers le bungalow? Là?
Bonne question. Ouais, un fantasme encore là. Ben,
quelque chose à régler avec votre passé.
C'est ça, peut-être. Je sais pas, le fait... c'est peut-être un peu donner une espèce de... Rendu là, c'est... Bon, écoute, je pense que c'est peut-être juste une espèce de clin d'œil un peu humoristique de donner une espèce de trame narrative à la chose. Bon, qu'est-ce que ça fait là? Bon, ben pourquoi pas? C'est parce que ça a été kidnappé, on l'a arraché puis on l'a mis là.
Ah, ça accentue le fait que c'est hors contexte.
C'est le côté surréaliste aussi un peu de la chose. Ça accentue peut-être ce côté-là que finalement c'est quelque chose d'impossible d'arracher une façade à son contexte pour le transposer dans un autre.
OK. Puis le bungalow, bon, ça, on en a parlé un peu, mais j'imagine aussi que c'est un prétexte peut-être à aborder différentes thématiques sur la vie de banlieue ou sur l'étalement urbain.
Oui,
il y a ça, mais en fait, ça, si on veut vraiment pas que le projet se résume à ça, c'est surtout dans, en fait, le bungalow vraiment comme un idéal où, souvent pour la plupart des gens, dont les gens de notre âge, tu sais. Vingtaine, trentaine, ça représente comme le bonheur, tu sais, de se construire une petite maison tranquille, bon, de décorer un peu comme on le fait là. Fait que c'est un peu ça aussi, on veut que les gens, peut-être...
On représente le rêve un peu de ces gens-là qui veulent vivre dans un quartier sécuritaire ou je sais pas quoi, ou un espèce de clash là, entre, avec les classes sociales du centre-ville et...
Comme tu disais, c'est un archétype, en fait. Là. C'est un archétype d'un mode de vie, d'un puis peut-être justement d'une certaine aspiration à une forme de bonheur, disons, qui est très répandue, puis que beaucoup de gens aspirent à ça. Bon, finalement, ça devient une façon pour nous, peut-être, d'essayer de d'étudier ça, d'essayer de comprendre ça, peut-être, en le construisant, en s'implantant dans un quartier comme ça, puis... c'est ça.
Oui, parce que nécessairement, si on regarde la façade de votre bungalow, on sent, c'est ça, qu'il y a une espèce de... comme une espèce de... comment dire? De masse anonyme, finalement, uniforme, qui a tous les mêmes goûts, les mêmes intérêts. Est-ce que vous cherchez un peu à ébranler les gens, justement, vis-à-vis de ces aspirations-là?
Ben, je sais pas si on les... je sais pas si on ébranle ou si on cherche à ébranler. En tout cas, on cherche à questionner, ça, c'est sûr. Puis, je pense que ça amène... je sais pas si ça ébranle, je sais pas, c'est une bonne question. Mais je crois qu'un peu, dans les commentaires en tout cas qu'on a eu dans le dernier mois depuis qu'on est là, on voit que chez certaines... pas chez tous, mais chez certaines personnes, on dirait que ça touche une corde sensible parce que, je sais pas, peut-être parce que justement, eux se représentent là-dedans ou eux, ces personnes-là ont pris ce chemin-là dans leur vie pour, je sais pas, pour atteindre une certaine forme de confort et je sais pas quoi. Puis là, ben, de voir ça là... puis, c'est ça. De le voir un peu, c'est comme si on le mettait sous la loupe, finalement. Tu sais, on le sort, en sortant de son contexte, ben, il devient finalement une espèce d'objet, un objet à regarder, une curiosité, alors que dans les quartiers où est-ce qu'ils sont d'habitude, c'est la norme, c'est ça. On lui porte pas attention. Puis...
C'est pas toujours perçu non plus comme une critique, en tout cas, des gens du quartier, tu sais, qui passent à tous les jours puis qui suivent vraiment assidûment nos travaux L'évolution. Qui avancent, c'est eux. Il y a plein de gens, là. Combien de fois par jour on entend « Ah, oh, c'est beau! »
Ah ouais, il y a des gens qui sont touchés. Okay.
Tout le temps. Hey, c'est fou, là. Je pense qu'on est un peu surpris par comment tout le monde...
On t'arrête de prendre les commandes aussi, là, des gens du quartier, des passants.
Oui. Ah oui, pour faire d'autres petites maisons comme ça.
Qu'est-ce qu'ils voudraient, eux autres, chez eux?
C'est ça, personnaliser, pourquoi pas.
Fait que ça devient vraiment comme plus une porte ouverte pour, bon, c'est quoi? C'est une réflexion autour de l'habitat. Tu sais, pourquoi que les... pourquoi que les gens se sentiraient bien, par exemple, dans cet espace-là. Tu sais, puis je pense qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à nous décrire comment ils aimeraient ça, vivre dans ce genre de maison-là. Tu sais, puis qu'eux, ils voient pas nécessairement ça comme un... comme une
quelque chose d'aliénant.
Ouais, non, non, pas du tout.
Non, ça, parce qu'il y a quand même plusieurs éléments qui se retrouvent à la banlieue ou proches, en périphérie, puis qui se trouvent justement proches de ce terrain-là avec les bretelles, disons le métro, le supermarché, le centre d'achat qui reste encore un bout, là, le gare du Palais, je crois. Ou... Donc, les façades, puis c'est ça.
Autre question aussi, vous travaillez en collaboration avec Folliculture pour le projet Clé en main. Quel lien votre projet peut entretenir, en fait, avec la thématique de la santé mentale?
Ah, ben, je pense que ça joue peut-être justement sur la question, ça joue un peu peut-être sur la question d'aliénation, vie de banlieue, de conformité, tout ça. C'est peut-être là que, c'est là que Folliculture, je crois, ont peut-être trouvé leur compte. Nous, on les avait abordés avec notre projet en leur demandant simplement si ça les intéressait de nous, d'embarquer dans notre trip, puis ça leur tentait de nous diffuser. Finalement, ils ont aimé l'idée beaucoup, puis je pense qu'ils ont vu leur compte peut-être dans leurs différentes, je sais pas, là.
Ouais, le côté social aussi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est quand même quelque chose d'assez large qui ouvre les portes à tellement d'avenues de réflexion que...
Ouais, ça effectivement. Cadresse.
Ils ont tout de suite, en tout cas, ils ont vraiment pas hésité à nous soutenir là-dedans, puis à embarquer dans le projet.
Parce que au-delà de ça aussi, au-delà de la thématique associée à Folliculture, vous, votre travail, vous êtes issu du monde de l'ébénisterie. Ça se situe vraiment au confluent entre l'architecture, les arts visuels et les métiers d'art. Voyons, excusez, j'ai perdu le flow de ma question. Qu'est-ce qui vous amène justement à travailler dans ce métissage-là?
Bon, ben, je me lance, mais en fait, c'est pas tant une réflexion que c'est juste comme ça que ça se passe. On vient de, avant d'aller en métier d'art, on vient de plein de milieux différents. Puis bon, c'est les métiers d'art, l'ébénisterie qui a fait qu'on s'est rencontrés les trois. Puis, c'est pour nous, il n'y a pas vraiment de barrière. On tripe sur le design, sur l'architecture, les arts visuels de façon vraiment large. Puis on a quand même un bagage métier d'art qui se perçoit un peu dans qu'est-ce qu'on fait, mais...
Ben oui, ça c'est clair, tu sais, déjà là, dans le fait de construire ça, ben le fait de construire, je pense, moi j'ai, en tout cas, j'ai plusieurs autres artistes en art visuel qui m'ont un peu parlé de ça en disant, ça sent votre provenance des métiers d'art dans le fait que vous construisez, vous n'êtes pas juste dans un concept ou dans une idée, il y a le fait
l'objet
de construire
est
très présent, puis en plus, justement, on joue avec l'univers, en construisant une maison, on est très proche, évidemment, de l'univers des objets, de l'univers du matériel et tout ça, fait que je pense que c'est là que, peut-être que finalement, on a parti des métiers d'art, mais qu'on s'est mis à s'intéresser, finalement, au sens qu'on pouvait donner à partir des objets, puis bon, c'est ça.
Bien, Pierre Brassard, Vincent Hens, Marie-Pierre Lebeau du collectif Acapulco, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon travail. Si vous voulez aller voir le bungalow, le projet Clé en main, c'est au coin des rues Saint-Joseph-Est et Saint-Dominique. C'est juste à côté du métro dans le nouveau Saint-Roch. Ça sera présenté du 7 au 17 octobre. Si vous voulez rencontrer les artistes, pourquoi pas aller au vernissage. C'est ce jeudi, ça s'en vient très rapidement, à 17h, toujours au coin des mêmes rues. De notre côté, à l'aérospatiale, on s'en va en pause audio. On écoute une suggestion d'Éric Dorion. On écoute Rolic Rope de l'album Poire Z. Toujours à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1, on vient d'entendre Rolic Rope. En fait, c'était pas un album, Point Z, c'était un projet qui regroupe Eric M, Voice Crack et Gunther Müller, toujours sous la suggestion d'Éric Dorion. En fait, ces temps-ci, on va se déplacer de Québec à Ottawa. Il y a une sorte de petite controverse qui entoure une exposition qui est présentée à Ottawa. C'est une exposition de Jonathan Robin qui met en vedette des enfants dans un contexte, ma foi, fort peu enfantin. Des enfants, par exemple, qui font une remise en situation, si on veut, de la prison d'Abu Ghraib ou encore des tours du 11 septembre. Des enfants asiatiques pendant le Boxing Day. Des enfants qui jouent à une sorte de Canadian ou American Idol. Des photos très, très colorées qui vraiment nous présentent des enfants qui jouent, qui probablement ont eu du plaisir à jouer. Mais les médias en ce moment à Ottawa sont un peu questionnent un peu en fait le fait que ces enfants-là soient mis dans des situations aussi atroces. L'artiste Jonathan Robin, lui, de son côté, est vraiment outré en fait que des gens se capotent un peu sur ce cas-là, si on veut. Il est outré aussi parce que le magazine Maclean's a interrogé les parents des différents enfants pour savoir si les enfants avaient été traumatisés ou non pendant les photographies. Des journalistes aussi qui ont été choqués d'apprendre que les enfants ont eu du plaisir, qui ont joué avec ça. Et de son côté, Jonathan Robin, lui, considère que le vrai scandale n'est pas dans le fait que les enfants fassent des mises en situation comme les attentats terroristes du 11 septembre. Le scandale, ce sont les images, c'est le fait que les médias sont rendus très, très invasifs et que même les enfants qui normalement devraient être préservés de choses aussi dramatiques sont complètement exposés à ça. Il ajoute aussi que, bon, l'enfance, c'est pas juste les petits nuages, les petits oiseaux, les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des côtés sombres à l'enfance. Bref, c'est quand même un débat assez intéressant sur l'utilisation des enfants dans l'art. Mais au-delà de ça, moi, je considère que le débat est plus axé sur l'impossibilité de se créer un espace un peu protégé des médias et de l'imagerie médiatique actuelle. Sur ce, on prend une pause. On se revoit de l'autre côté à CKRL 89.1.